Bonjour à tous. Nous sommes très très ravis, très heureux, très honorés. Je vais vous dire tout de suite, je vais arrêter les superlatifs parce que sinon je déborderai de superlatifs pour parler aujourd'hui. Donc je vais essayer de rester sobre, de calmer les battements de mon cœur qui tambourinent contre mes petites côtes. Pour parler de ce livre que j'ai adoré. Donc merci à vous d'être venus pour rencontrer Clémentine Beauvais pour Songe à la douceur. Merci Clémentine.
Merci beaucoup de m'avoir invitée.
D'être venue depuis York, tout de même. Donc nous mesurons la chance et le privilège que nous avons. Donc Clémentine Beauvais, c'est une auteure. Moi j'aime plutôt romancière en l'occurrence, je sais pas.
Ah oui, c'est vrai, je n'ai jamais pensé à ce mot, mais c'est vrai qu'il existe aussi, il est pas mal.
Oui, depuis plus longtemps. Que j'ai découverte en 2012 avec La Pouilleuse, qui était un texte coup de poing, vraiment un texte dur, serré, tendu, une expérience de lecture chez Sarbacane déjà, mais pas encore chez Exprime. Une expérience de lecture très forte, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. 2 ans plus tard, entrée chez Exprime avec, comme des images, texte aussi assez dur, la solitude, les grandes écoles, la concurrence, les réseaux sociaux déjà, cyberharcèlement, entre autres, une histoire de jumelles. Les petites reines 2015, alors là on change de registre, on rit franchement, mais toujours avec les réseaux sociaux, la modernité, l'apparence, la difficulté à faire sa place quand on est ado. Et puis là, 2016, Songe à la douceur. J'ai dit que j'étais sobre, hein, donc Songe à la douceur. Voilà, c'est tout. Songe à la douceur, donc ce livre qui fait accélérer le cœur, produit plein d'effets secondaires. Je suis sûre que le rouge irait très bien aux joues de Clémentine, mais on va éviter, même si elle adore les pivoines, comme Tatiana.
J'ai l'habitude. C'est l'un des très rares éléments autobiographiques de l'histoire, on va le dire.
Donc, on va éviter de vous faire trop, trop rougir. Vous êtes née l'année où je suis rentrée à la librairie Mola.
Une belle année.
C'est vous dire si s'est passé des choses cette année-là.
Le mur de Berlin, tout ça, pas très, très intéressant
rien,
par rapport.
Rien à côté. Vous êtes aujourd'hui enseignante-chercheuse à l'Université de York. L'expression est correcte?
Ouais. Il me semble, je crois qu'on dit enseignante-chercheuse. Ouais, en féministe, tant qu'à faire.
C'est ça. Blogueuse, dessinatrice, romancière.
Romancière, oui.
Surtout. Si vous deviez vous présenter, que diriez-vous de vous?
Oh là, c'est vachement dur, ça, parce qu'à chaque fois...
On commence fort, oui.
Bah oui, parce que c'est vrai que la première tendance que j'ai, c'est toujours de dire je suis prof, j'écris des livres. Après, je m'aperçois que ça fait genre la fille qui ne fait rien d'autre dans sa vie. Après, je m'aperçois que c'est la vérité absolue. Donc finalement, c'est vrai que en tout cas, à ce stade de ma vie, je me définis beaucoup professionnellement. C'est un peu triste, mais c'est la vérité. Je occupe beaucoup de ma vie à enseigner, à faire de la recherche et à écrire des livres. Donc c'est un vrai plaisir de me balader un peu, de venir au soleil aussi pour. Chasser un peu tout ça. Donc ouais, je pense que mon identité est assez professionnelle en ce moment.
Être écrivain, ça vous définit donc au quotidien finalement
et prof aussi, ouais. Oui. Ouais, je pense qu'il y a vraiment les deux. Ouais, c'est vraiment une
les deux un peu à égalité.
Ouais. Ouais, les deux sont importants de manière égale et prennent mon temps pas de manière tout à fait égale, enfin il ne faut pas que je dise ça, parce que si le podcast est mis en ligne et que ma directrice de département le voit et qu'elle m'entend dire que je me dévoue de manière égale à l'écriture, elle va pas être très contente. Donc non, je vous promets, professeur Shepak Reed, je fais beaucoup plus d'enseignement et de recherche que d'écriture.
Vous inventez des histoires depuis que vous êtes toute petite ?
Ouais, je pense que depuis toute petite, mais je viens d'une famille aussi où on inventait beaucoup d'histoires. Enfin, mon père surtout racontait beaucoup d'histoires, donc c'était pas même à l'oral, on se racontait très souvent des histoires en se baladant, tout ça. Et ensuite, j'ai eu une petite sœur qui était ma première victime d'histoires. Donc, je lui écrivais des tas d'histoires et je la forçais à les écouter. en s'asseyant par terre devant moi. Elle était très docile, cette enfant, c'était vraiment génial. Et donc je l'avais sous mon joug un peu comme ça, donc je racontais des histoires. Et maintenant, mais vraiment dans une famille mais d'énormes lecteurs, c'est la seule personne qui déteste lire. Mais vraiment, elle déteste ça, c'est-à-dire qu'elle ne lit jamais en bouquin à la main. Donc je pense que c'est entièrement ma faute. C'est super de commencer une rencontre avec cette pub personnelle. Tel est le pouvoir de la narration que j'ai dégoûté à vie. ma première lectrice de lire, voilà.
Et votre premier vrai roman fini, c'était quand ?
Ah, mon premier vrai roman fini, il n'a jamais été publié. Ça, je pense que c'est assez important de le dire. Je trouve, je le dis souvent quand je suis en rencontre scolaire, parce que souvent, on parle de premier roman, on dit telle personne, son premier roman, ceci. Mais en fait, c'est très rarement le premier roman. Et il y a plein de romans qui viennent avant qui ne sont juste pas publiés. Et en fait, en anglais, on a deux manières de le dire. Donc, on peut dire un debut novel, c'est le premier qui est publié. Et puis, first novel, c'est le premier qu'on écrit. Et en français, on n'a pas cette distinction. Donc, ça donne l'impression que tout à coup, quelqu'un écrit un roman génial. C'est le tout premier et il est publié et c'est extraordinaire. Et ça ne se passe pas comme ça. Et c'est vrai que moi, le premier roman que j'ai fini, c'était une grande victoire pour moi, mais malheureusement, il n'a jamais été publié. Il y en a eu plusieurs que je considère comme des petites étapes, on va dire. Le tout premier, je devais avoir 11, 9, 10, 11 ans par là. Mais ensuite, il y en a un gros que j'ai écrit, un espèce de gros pavé quand j'avais 17 ans. Il s'appelait Le fils du président, et c'était sur un petit garçon qui est donc le fils du président de la République. Celui-là n'a jamais été publié. Voilà, je l'ai envoyé à beaucoup, 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 beaucoup de maisons d'édition, mais sans succès. Ça arrive.
Un jour, peut-être.
Ouais, enfin, d'un autre côté, je ne sais pas si
c'est souhaitable.
Je ne sais pas si c'est une très, très, très bonne idée. Mais bon, pourquoi pas. Enfin, il a encore une place importante pour moi. Mais...
J'ai vu une photo traîner, parce que moi aussi je suis sur les réseaux sociaux, j'observe ce qui s'y passe.
Une photo traîner, c'est pas un signe.
J'ai vu une photo publiée.
D'accord.
Qui est pas du tout honteuse, c'est une photo de bibliothèque récente.
D'accord.
Où il est question d'une collection de Harry Potter en 22 langues. C'est ça ?
22, là, il y a une petite inflation, j'aimerais bien, mais ouais. Non, j'en ai que 15.
Ah, c'est tout.
Vous en avez pas d'autres ? Non, le truc génial, c'est quand on est fan d'Harry Potter et qu'on décide à l'âge de, je sais pas, 11 ans, 12 ans, de faire collection d'Harry Potter dans toutes les langues du monde. Voilà. Mais qu'on ne se rend pas compte qu'à 27 ans, ses parents vont venir avec une voiture remplie de livres, qui sont surtout des Harry Potter, pour les déverser dans votre maison d'adulte qui n'a plus de place, finalement. Donc, on arrive avec 15 autres... Là, en l'occurrence, ouais, j'ai tout un truc. Elle est difficile, cette collection, parce que bon, il y en a qui sont assez simples. J'ai mobilisé toute ma famille. En fait, si vous allez quelque part, ramenez-moi une collection, enfin, un Harry Potter. Je n'ai pas de critères particuliers, ça peut être n'importe lequel des tomes.
C'est un message lancé, si vous voulez faire plaisir à Clémentine.
Ouais, j'en ai des langues vraiment géniales. Et ce que j'adore aussi, c'est les couvertures différentes. Alors, les italiennes, elles sont géniales, j'adore celles-là. Et puis, la japonaise est très bien. Mais il y en a qui sont plus difficiles à trouver que d'autres. Par exemple, Harry Potter en arabe était très, très difficile à trouver. Je l'ai cherché dans plusieurs pays, parce qu'on était en transit dans des aéroports, ou alors quand je suis allée en Égypte, très dur à trouver. Et en fait, c'est mon meilleur ami Salman, qui est pakistanais, qui me l'a trouvé au Pakistan en arabe. Alors là, c'était le grand jour.
Collector.
Voilà. Mon obsession apparaît déjà, après 10 minutes d'interview, super.
On va venir à Songe à la douceur, c'est juste pour se détendre. Et puis apprendre plein de choses en même temps. Harry Potter, ça a été important comme lecture ?
Ah,
dans
oui,
une
oui.
vie, ouais. C'était à quel âge ?
Eh bien, Harry Potter, le premier, donc les trois premiers, ma mère me les a achetés un vendredi soir quand j'allais en cours d'escrime à Chantelivre à Paris. autant ma passion pour l'escrime a été très très brève, autant ma passion pour Harry Potter. Ouais, elle avait lu un entrefilet dans Le Monde qui disait que ça avait un certain succès en Angleterre. Voilà, c'était pas du tout connu en France, donc j'étais arrivée ensuite obsessionnelle au collège en disant mais qui a lu, personne n'avait lu, c'était horrible. Et donc pour Noël, on a offert les trois tomes à tous mes amis, comme ça j'étais sûre d'avoir des gens avec qui je pouvais partager cette obsession féroce. Et en fait, Harry Potter, ça a été important de plein de manières. Déjà, c'était vraiment en termes de narration, je pense qu'on ne peut pas prendre de meilleurs cours d'écriture d'intrigue qu'en lisant Harry Potter. C'est vraiment la reine de l'intrigue, à part le 8e tome, dont on ne parlera pas aujourd'hui. aussi en termes de langue, parce que finalement, comme je ne pouvais pas, il fallait que j'attende la traduction pour pouvoir lire le prochain tome. Ce n'était pas possible d'attendre. Et donc, du coup, je l'ai lu en anglais, mais je ne parlais pas du tout anglais à l'époque. Donc, j'avais mon dictionnaire d'un côté, mon Robert E. Collins, et de l'autre côté, le livre. Et je le lisais en traduisant pratiquement mot à mot. j'ai pas compris grand-chose, du coup j'ai relu du début et tout, et en fait c'est vraiment en lisant Harry Potter en anglais que j'ai appris non seulement l'anglais, mais aussi à aimer l'anglais, la langue anglaise. J'avais pas une passion dévorante pour l'anglais avant Harry Potter, donc ça a vraiment guidé mes choix de vie aussi, parce que du coup je me suis retrouvée en Angleterre plusieurs années plus tard, et ouais, ça a été vraiment, enfin plus que formateur, c'est un élément définitif en tout cas, de mon adolescence, ça c'est sûr.
Dans une interview, j'ai lu aussi, parce que je suis très très curieuse, j'ai lu aussi que vous manquiez de temps pour écrire, et donc que vous preniez une heure ici, deux heures là, un peu comme un temps un peu volé sur un emploi du temps bien rempli. Comment on fait pour travailler comme ça? On a deux cerveaux
Non. Enfin, un temps bien rempli. En fait, les gens disent souvent ça, mais j'ai pas d'enfant, je vis seule dans une ville de province où il se passe pas grand-chose quand même. Je ne fais littéralement rien d'autre, c'est-à-dire que j'ai rien d'autre. J'ai pas un emploi du temps super rempli quand même. Donc, faut pas non plus exagérer. J'ai pas l'impression d'être tout le temps pressée. Mais c'est vrai que pour l'écriture, j'ai pas du tout comme certaines personnes ont des emplois du temps très très fixes pour écrire. Non, j'ai pas ça. Mais par exemple, je prends beaucoup sur les vacances. Donc, Songe à la douceur, là, une très grosse partie a été écrite sur un bateau où j'étais, je le confesse, en croisière avec ma mère. En mer Méditerranée, c'est vraiment pas glamour. mais voilà. Et puis, Les petites reines, je l'ai écrit beaucoup à Rome où j'étais aussi avec mes parents en vacances et ma sœur. Donc, c'était vraiment pris sur des plages de temps comme ça, de deux semaines à la fois, en écrivant beaucoup. Et puis ensuite, par-ci, par-là, quand je trouve du temps ou quand j'arrive à me décider aussi. Mais c'est pas régulier, ouais. C'est pas régulier. Ça devrait peut-être l'être, mais c'est un peu difficile de faire ça. Je pense que pour beaucoup d'auteurs qui ont un autre métier, dont certains peut-être sont dans la salle, ils savent bien que à la fin de la journée, après avoir travaillé, surtout si c'est aussi un métier intellectuel, surtout l'enseignement, c'est crevant, on est d'accord. et du coup, on se retrouve, on arrive à la fin de la journée, et en fait, c'est même pas qu'on est hyper fatigué, mais on n'a pas forcément envie de se remettre à quelque chose qui implique l'écriture. Quoi. Donc, c'est pas toujours facile.
Et l'écriture, c'est une nécessité, un devoir qu'on s'impose, c'est une obligation, c'est une respiration, ça correspond à quoi, en fait? Un besoin?
Oui, un besoin. Et puis aussi, c'est aussi récréatif. Hein, je pense que c'est pas seulement douloureux ou difficile, etc. Mais il y a des différents stades aussi, parce qu'il y a l'écriture, il y a le moment de la première écriture qui est très un peu comme un élan, etc. Puis après, il y a tout le retravail qui finalement prend parfois beaucoup plus de temps que l'écriture elle-même. Et là, qui peut être plus difficile, plus stratégique. Et là, en général, ça c'est le stade où je me dis, où je mets vraiment dans mon Google Agenda de 13h à telle heure. Non, pas de 13h, promis, chef, pas à 13h, je n'écris jamais à 13h, non. Disons à 6h de l'après-midi, où je me remets à écrire. Donc voilà, il y a des moments plus stratégiques que d'autres.
Après l'immense succès des Petites Reines, parce que je suppose que beaucoup d'entre vous dans la salle ont lu Les Petites Reines, alors, qui a un énorme succès de librairie, qui va être adapté au cinéma, qui a été adapté au théâtre, enfin, c'est un succès de bouche à oreille incroyable, Les Petites Reines. Très belle aventure. Est-ce que vous vous êtes sentie attendue au tournant, quelque part? Ou attendue tout court? Parce qu'au tournant, ça peut pas être péjoratif. Mais...
Oui, quand même. En fait, pour moi, c'était très important de ne pas faire quelque chose qui soit comparable, et je veux dire comparable en termes de genre. Parce que j'avais eu des emails me disant « est-ce qu'il va y avoir une suite ?» Mais je voulais vraiment pas soit faire une suite, soit faire une autre comédie, parce que ça me paraissait très très risqué de faire quelque chose où on pourrait dire j'ai préféré ou j'ai pas préféré. Enfin, c'est pas ça, c'est qu'on peut tout à fait préférer l'un ou l'autre, mais je voulais pas que ça soit... Enfin, je voulais vraiment que ça soit, comment on dit, là, comparer des pommes et des oranges, c'est ça? C'est comme ça qu'on dit? Non, c'est l'expression.
C'est peut-être en anglais, ça.
Je suis fatiguée. Et donc, je voulais pas que ça soit comparable de ce point de vue-là. Et donc, j'essayais de réfléchir un peu à quelque chose qui puisse être assez différent pour qu'il n'y ait pas de comparaison directe. Après, je pense que c'est un peu tout, mais il fallait quand même... Thibaut, c'est mon éditeur chez Sarbacane, faisait quand même attention. Je pense que, comme moi, il avait des exigences assez fortes sur ce troisième exprime. Et on était tous les deux d'accord pour pas publier quelque chose qui soit trop similaire aux Petites Reines, soit vraiment qui n'ait aucune chance d'attirer des critiques positives, on va dire. Parce qu'on savait que ça allait être comparé de toute façon. Ouais.
Donc, comment ça s'est passé en fait? Vous êtes allé voir Thibaut Bérard en disant j'ai une super idée, je vais adapter Jeanne Onéguine.
Oui, c'était
C'était un peu ça.
c'était un peu ça. Parce que normalement, avec Les Petites Reines, je lui avais fait le pitch, c'est-à-dire que je lui avais dit, voilà, c'est l'histoire, et puis j'avais raconté l'histoire très brièvement, puis ensuite j'avais écrit toute l'histoire et je lui avais envoyé. Et donc l'histoire était finie quand il l'avait eue. Mais pour Songe à la douceur, c'était très différent parce que j'avais écrit seulement les 30 premières pages quand je lui ai d'abord écrit à Thibaut en lui disant, écoute, je sais, je pense savoir ce que je veux faire la prochaine fois. C'est un roman en vers inspiré de Jeanne Onéguine.
On aurait adoré voir son expression à ce
Ben, je ne l'ai
moment-là.
pas vu parce qu'en fait,
C'est dommage.
on était au téléphone. Ah non, non, t'es même pas au téléphone, c'était par email. Et il m'a répondu en disant, mais enfin, ça m'a l'air chelou. Et je lui ai dit, ouais, quand même. Et après, finalement, je lui ai envoyé les 30 premières pages. Et là, par contre, il a répondu tout de suite. Il l'a fait lire tout de suite aux autres personnes de Sarbacane aussi, les 30 premières pages. Et il m'a répondu en me disant, super, nickel, on te suit, fais le reste. Et direct, il a commencé à se renseigner sur déjà l'œuvre originale, l'opéra qu'il connaissait pas, etc. Et aussi sur le roman en vers, parce qu'en fait, il connaissait pas cette forme, et moi, c'est une forme que je connaissais avec mon expérience en Angleterre et aux États-Unis, parce que c'est un genre qui existe depuis plus longtemps là-bas. Et donc, tout de suite, il a commencé à se renseigner, il a été hyper actif pour voir qu'est-ce qu'il y a d'autre, il a tout de suite cherché ses repères, en fait, sur quoi je peux m'appuyer pour avoir un point de référence par rapport à ce livre-là. Donc, depuis le tout début, j'étais très, très suivie par toute l'équipe. Et ensuite, ça, c'était assez bizarre comme mode de fonctionnement, c'est la première fois qu'on a fait ça. Toutes les 25 pages à peu près, je lui envoyais les nouvelles 25 pages. J'avais déjà envoyé tout un plan, donc ça s'est vraiment fait vraiment même pas en partenariat, enfin je veux dire en complicité totale avec Thibaut, avec l'éditeur. Et à chaque fois, tout le monde lisait au bureau les extraits qui arrivaient. Ouais.
Alors, je trouve ça très intéressant à dire devant. Je sais que dans la salle, il y a des gens qui écrivent, soit qui sont déjà publiés, d'autres qui font des concours de nouvelles.
Ah
Entre
bah
autres.
j'ai commencé avec concours de nouvelles.
Voilà. Et je trouve que c'est intéressant ce que vous dites parce que ça fait tomber le mythe de l'inspiration là, qui vient, qui tombe des nuages comme quelque chose de divin qui infuse dans le corps et l'esprit d'écrivain, qui les rend sur le papier. Et je trouve que vraiment ça démythifie. Enfin, c'est une technique aussi l'écriture.
Ah
C'est une technique,
oui,
c'est un
ouais.
travail,
Bah
c'est.
pour moi, oui. Après, il y a des gens qui font les choses différemment. C'est vrai que moi, quand
Oui.
j'ai lu le Stephen King sur l'écriture, honnêtement, je ne me retrouve pas une seconde dans ce livre. Je le trouvais super intéressant. Pour moi, c'est fascinant de lire qu'il écrit comme ça, en jetant tout sur la page, sans faire aucune structure, pendant des mois et des mois et des mois et des mois. Et ensuite, mais moi, ah, je ne fonctionne pas du tout comme ça. Et l'autre jour, pareil, sur Inter, il y avait Dubois là, qui parlait de son dernier bouquin. C'est ça, je me trouvais. Et il disait, pareil, lui, il écrit pendant 31 jours et il fait que écrire comme ça, 8 heures par jour, sans rien corriger, rien, rien. Et c'est que de la pure inspiration. Il dit que c'est la seule manière où il peut obtenir l'énergie. Et ça aussi, c'est vraiment une description dans laquelle je ne me retrouve pas. Donc, je ne voudrais pas du tout dire que c'est
Oui, qu'il y
le
a une
seul.
méthode. Non, il
Non,
n'y a
je
pas
pense
une
vraiment qu'il n'y en a
méthode,
pas,
mais.
mais c'est sûr que je suis beaucoup plus structurée que ça. Et moi, il me faut vraiment une structure pour savoir aussi à quel point j'en suis, où est-ce que je vais, etc. Et puis Thibaut, qui a quand même un côté assez gourou. quand je regarde dans cette direction, c'est que je m'adresse à Philippe, qui est l'un de mes frères et sœurs exprimes, qui est aussi donc Thibaut en éditeur. Et donc, qui sait à quel point c'est quelqu'un qui torture les gens
Avec son stabilo.
Voilà, exactement, avec ce stabilo. Donc là, c'est vraiment du travail qui se fait avec l'éditeur, ouais, ça c'est sûr.
On va y venir à songer à la douceur, hein, maintenant que mes battements de cœur se sont un peu calmés.
Les miens, par contre.
Quand vous écrivez, je continue quand même, quand vous écrivez, vous cherchez à vous surprendre plus qu'à vous distraire, vous lancez des défis, vous poussez des frontières, comment.
Honnêtement, je sais pas trop. J'ai pas l'impression d'avoir ça en tête. Parce que vraiment, par exemple, pour cette histoire de vers, enfin, je suis sûre qu'on va parler du fait que c'est un roman en vers, mais
Bien sûr.
on m'a beaucoup demandé est-ce que c'était une contrainte, mais je l'ai pas vraiment vécu comme une contrainte. En tout cas, c'était pas une contrainte imposée comme quelque chose qu'on ferait, par exemple, un roman expérimental. Pour moi, c'est pas un roman expérimental, c'est pas une contrainte, c'est pas quelque chose qui force à faire quelque chose de nouveau. C'était plutôt la manière dont je voulais écrire cette histoire-là à ce moment-là. Et ça s'est trouvé être des vers, mais Je sais pas, parfois c'est vraiment juste par amusement ou parce que c'est l'histoire qui me vient en tête et que j'ai envie de trouver une bonne manière de la mettre en forme ou une manière qui me semble la plus parlante à un moment donné. Mais je sais pas si c'est aussi verbalisé que ça. Non, pas spécialement me surprendre ou me faire un challenge, non, pas spécialement.
Et alors, Eugène Onéguine, donc, Songe à la douceur, figurez-vous. C'est, alors on a dit souvent une adaptation, moi je dirais plutôt que c'est un hommage.
C'est très très dur de trouver les... C'est
Parce
vrai
qu'il y a
que
tellement
oui.
de différences, on ne peut pas dire que c'est, enfin, à mon
Bah
sens, une adaptation
ouais,
tout de
je sais
même.
pas trop comment dire parce qu'en même temps c'est vraiment exactement les mêmes personnages et
Ouais.
la même histoire mais pas la même structure,
Pas la même fin.
pas la même fin.
Il y a quand même pas mal de différences.
Une actualisation,
C'est
une
librement inspiré,
ouais, c'est
en tout
librement
cas,
inspiré.
d'Eugène Onéguine de Pouchkine et donc de l'opéra du même nom de Tchaïkovski. Donc merci pour m'avoir invité indirectement à travers cette lecture à lire Eugène Onéguine que je n'avais jamais lu et que je recommande vivement. Je suppose que vous aussi. Donc Songe à la douceur, ça vient de là. Et pourquoi donc, Clémentine? Qu'est-ce qui s'est passé avec Eugène Onéguine?
Bah, Eugène Onéguine parce que, enfin, tout simplement, vraiment, c'est parce que c'était une histoire que j'adorais depuis longtemps. L'opéra, j'en suis complètement fan. Je le connais pratiquement par cœur. C'est une obsession totale depuis des années. Et le roman aussi. Et puis, c'était une histoire qui, du coup, qui m'habite depuis longtemps. Et je m'étais très souvent dit, ah, j'aimerais bien faire quelque chose avec quand même. J'avais jamais fait spécialement d'adaptation. C'était vraiment pas. C'est pas que je cherchais une adaptation à faire. C'était une idée qui me trottait dans la tête depuis un certain temps. Et donc, j'avais ces personnages et j'avais très envie de faire quelque chose avec. Et quand j'ai commencé à écrire cette histoire, je sais pas pourquoi, je me suis dit, on va commencer avec la toute fin. Et ensuite, après, je me suis dit, ah, oui, c'est pas mal si on déstructure l'histoire pour que ce soit pas chronologique, linéaire comme dans l'original, parce que du coup, il y a quand même un certain nombre de surprises ou de retournements ou de changements de situation. Ça serait bien de pouvoir faire en sorte que cela arrive vraiment comme des surprises ou comme des retournements de situation. Et puis, les vers sont venus, mais vraiment presque naturellement, parce que le roman original est en vers, parce que l'opéra reprend des vers du roman original, et aussi parce que je pense que c'était peut-être une époque où j'écoutais beaucoup, de toute façon, d'opéra, de chansons, mais c'était pas, encore une fois, c'était pas une contrainte, c'était vraiment la manière dont le livre a commencé, et c'était finalement, et je l'ai reconnue comme étant celle que je voulais continuer.
Alors, il ne faudrait pas que ça fasse peur à quiconque, quand on dit roman en vers libre. C'est au contraire un immense plaisir de lecture parce qu'il y a une fluidité dès les premières pages, dès les premières lignes. On est dans un rythme très singulier. Alors, jamais vu, c'est vrai qu'en français, à part Charlotte de Fuenquinos, à ma connaissance, on n'a pas de roman contemporain en vers libre. Enfin, si quelqu'un a des exemples, qu'il lève la main, réfléchissez. Clémentine.
Ouais, mais il y en a par contre, il y en a beaucoup en
Et en
Angleterre, aux
Angleterre,
États-Unis,
voilà. Donc
ouais.
ça pourrait arriver en France, peut-être que ça va donner l'idée à des traducteurs, à des éditeurs,
Bah oui,
de faire des
oui.
traductions.
C'est un genre qui vraiment existe depuis 10-15 ans en Angleterre et aux États-Unis et qui gagne très régulièrement d'ailleurs le Carnegie en Angleterre, le Newbery aux États-Unis. C'est vraiment un genre qui est assez établi en jeunesse. Et ce qui m'intéresse, enfin ce qui m'intéressait sur ce genre, j'en avais lu quelques exemples. Je m'étais jamais dit spécialement que j'allais en écrire, pas du tout. Mais bon, je pense que, enfin, de facto, ça devait être quand même dans ma tête à ce moment-là. Mais ce qui est intéressant avec ce genre, c'est que j'ai l'impression qu'en Angleterre, aux États-Unis, les gens se sont aperçus que c'était très utile justement pour les adolescents notamment qui n'aimaient pas trop lire. Parce qu'il y a un côté, y a un côté fluide et il y a un côté. Et puis c'est aussi galvanisant parce que ça va plus vite. Enfin, ça paraît idiot de le dire de manière aussi banale, mais c'est vrai qu'on le lit plus vite. Et donc du coup, il y a un côté encourageant, etc. Et en général, c'est des livres qui sont très très imagés, où il y a beaucoup de. Une espèce de profusion d'images, de métaphores, etc. Qui correspondent aussi, je trouve, pas mal à l'adolescence où, enfin moi quand j'étais ado, je lisais plein de poèmes, plein de poésie à ce moment-là. Donc je sais pas, il y a quelque chose qui a fait que ce genre a bien fonctionné en Angleterre et aux États-Unis. Et maintenant, ça surprend plus. C'est-à-dire que c'est pas que c'est fréquent, mais quand on dit Bidule sort un roman, c'est un roman en vers, personne ne va dire un roman en vers, c'est incroyable. Enfin, ça surprend plus de la même manière. Mais c'est vrai qu'en France, la traduction, c'est quand même un gros challenge de traduire un roman en vers vers le français. Et puis, je sais pas pourquoi, ça c'était simplement. Pas forcément fait. Mais bon, encore une fois, l'intention n'était pas du tout d'importer un genre en France, c'est juste que ça s'est fait comme ça.
Donc, nous venons au cœur maintenant du sujet. Même si on tourne autour et s'il s'est dit des choses, je trouve très intéressantes, à mon sens. J'ai une question stupide qui me vient comme ça. Est-ce qu'on pourrait dire de vous que, comme pour Flaubert, Tatiana, c'est vous?
C'est-à-dire que je suis aussi Flaubert.
mais ma foi.
Non, mais pas du tout. Pas du tout. Non, non. Non, non, mais ça vraiment, je comprends pourquoi on voudrait dire ça, parce que il y a des côtés, enfin, professionnellement, disons, on est à peu près dans la même ligne, mais en fait, pas vraiment, parce qu'elle, elle est en histoire de l'art et moi en éducation, c'est pas la même chose. Et le discours complètement. Bref, mais non, pas du tout, parce que moi, je pense pas du tout avoir la même personnalité que Tatiana. Je pense que je suis beaucoup plus proche d'Eugène en termes de personnalité. Je suis pas du tout aussi sérieuse. Pour moi, Tatiana, c'est quelqu'un de très sérieux. Elle a vraiment, mais de sérieux dans le sens. Pas forcément. Enfin, dans tous les sens du terme. Le sens. Elle a Elle a une manière de voir le monde qui est quand même assez dénuée d'humour, de distance, et qui est très, très... Elle est très ambitieuse, elle est très disciplinée, elle est dans son propre objectif, elle n'en a qu'un seul, elle est assez... je pense pas du tout être comme ça. Mais elle correspond à un type de personne que j'ai rencontré pas mal. Et puis, il y a des côtés qui sont sans doute les mêmes. Peut-être qu'on a eu une adolescence un peu similaire, mais là encore pas énormément similaire, mais le côté très, très bibliophile, très, très... très complexé, etc. Mais enfin, je veux dire, ça, il y a beaucoup de gens. C'est pas exactement
rare. C'est assez
répandu. Par contre, Eugène, plus, je pense que je suis plus côté Eugène que côté Tatiana.
On apprend plein de choses, hein, vous voyez. Donc, vous empruntez à Baudelaire ce vers de l'invitation au voyage, songe à la douceur. Vous auriez pu emprunter aussi à Charles Trenet, Que reste-t-il de nos amours? Ouais. Ou à Barthes, fragment d'un discours amoureux.
Ça aurait été bien que vous nous fassiez un email sur ce sujet quand on s'envoyait 30 000 emails pour essayer de trouver le titre de ce livre en novembre dernier, parce que c'était atrocement difficile à trouver. Moi, je voulais l'appeler Eugène et Tatiana. C'était mon titre que j'avais depuis le début en tête, Eugène et Tatiana. Et l'éditeur a dit hors de question. De toute façon, Eugène, c'est pas un nom et Tatiana, c'est pas un nom, donc c'est pas logique. Il était quoi de mon compte, alors que pour moi, c'est des prénoms qui sont tout à fait naturels, mais il me disait, mais ça va pas. Eugène, ça existe pas ce prénom. Et Tatiana, qui s'appelle Tatiana? Donc, c'était pas possible. Et lui, il voulait l'appeler, mais des titres, mais horribles, du genre « Amour fou !» point d'exclamation. C'était l'une des propositions. Et donc, j'ai mis mon veto absolu et tout. Et puis, finalement, honnêtement, j'ai fait la pêche à un vers. Je me disais, puisque c'est en vers, on va essayer de trouver un vers dans Eugène Onegin qui corresponde. Donc, j'ai cherché. Mais bon, c'était vachement dur à trouver. Puis, en plus, c'était des vers qui n'étaient pas évocateurs en dehors du... Après, je me suis dit, peut-être que si on cherche en poésie française. Alors, j'ai regardé. Et puis, finalement, celui-là, j'avais même pas pensé à l'invitation au voyage, franchement. Et puis, je suis passée dessus, évidemment, que tout le monde connaît par cœur. Je me suis dit, mais oui, mais c'est celle-là qu'il faut, c'est parfait, ces mots. En plus, si on regarde ensuite les vers suivants, c'est exactement l'élan de départ qu'il y a à la fin. Et donc, ça m'a paru parfait comme titre. Et je l'ai envoyé à Thibaut, il a dit, non, non, je veux pas ce titre. Non, non, c'est trop doux. Par contre, on va l'appeler Super Amour Parfait. Et donc, je disais non. Et ensuite, ce qui s'est passé, qui était assez intéressant, c'est qu'il y a eu les attentats à Paris. C'était évidemment une période horrible. Et j'ai réécrit à Thibaut et je lui ai dit, écoute, franchement, depuis quelques jours, pour moi, c'est le bon titre, c'est le titre qu'il faut. On va pas faire un truc hyper ironique, un truc, t'as vu, on est trop intelligent et tout. On va faire un truc qui soit vraiment... après tout, c'est quand même un livre sur la douceur, sur l'amour et tout. Et tout de suite, là, par contre, il a répondu, il a dit, ouais, t'as raison, c'est le bon titre, on va l'appeler comme ça, quoi. Et c'est comme ça que ça s'est passé, qu'on s'est décidé sur ce titre. Mais les décisions, ça peut être hyper dur à trouver. Là, c'était très, très dur à trouver.
On l'a échappé belle, quand même. Message personnel à Thibaut Bérard, amour fou, non, quoi.
Point d'exclamation.
En plus. Si on parlait de l'histoire, quand même, tout simplement, parce qu'il faut qu'on en arrive là. Partout, on ne parle que de songe à la douceur, mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire, quand même ?
Eh bien, c'est l'histoire de deux personnes, Eugène et Tatiana, qui se rencontrent pour la première fois quand ils ont 14 et 17 ans. Lui, c'est le meilleur ami du copain de la sœur de Tatiana. Donc, pendant que le copain et la sœur de Tatiana passent leur temps à... On va pas dire ce qu'ils font, on sait pas, après tout, c'est pas dit dans le livre. Eugène et Tatiana bavardent dans leur jardin, et évidemment, Tatiana tombe éperdument amoureuse d'Eugène, lui écrit une lettre enflammée en plein milieu de la nuit, il la rejette assez dédaigneusement, et voilà, ensuite il se passe un événement que je raconterai pas ici, sinon ça va spoiler. Et ensuite, ils se retrouvent 10 ans plus tard. Et donc ça, c'est l'histoire... D'ailleurs, je m'aperçois que je suis en train de raconter l'histoire originale. Mais ce qui se passe dans Songe à la douceur, c'est qu'on se retrouve 10 ans plus tard. Ils se retrouvent dans le métro. Donc, elle a 24 ans et lui, 27. Et il se pourrait que leur histoire reprenne. Enfin, elle n'avait jamais vraiment commencé, mais il se pourrait qu'elle prenne, finalement. Sauf que leurs engagements respectifs ont changé. Elle est plus disponible de la même manière, on va dire. Elle a d'autres projets, d'autres rêves, etc., et d'autres visions aussi des relations. Et puis ça prend place sur vraiment quelques jours, finalement, où ils vont décider ce qui va se passer de cette histoire d'amour retrouvée, ou disons ressurgie 10 ans plus tard.
Donc c'est le hasard qui les met en présence. Et là, c'est un petit peu les rôles qui s'inversent, parce qu'autant Tatiana était folle d'Eugène quand elle avait 14 ans, autant là, c'est Eugène qui la redécouvre à l'âge adulte, comme si, nous dit-on, sa beauté était cachée derrière son appareil dentaire.
C'est vrai, c'est vraiment pas juste ses appareils dentaires. Mais il faut dire qu'elle aussi, hein, à mon avis, elle est quand même très 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 amoureuse 10 ans plus tard. Oui. Mais ce qui a peut-être changé, c'est que lui, c'était un peu l'ado nihiliste, dandy, etc., qui se faisait un peu une posture de ça. Et finalement, sur le tard, il découvre la passion qu'il n'avait pas trop eue à l'adolescence. Et est-ce que c'est trop tard ou pas, on verra bien. Mais en tout cas, elle, par contre, elle est très ancrée dans un projet de vie où on ne peut pas forcément faire des négociations de manière aussi évidente avec la passion amoureuse, quoi.
Est-ce que c'est le roman des amours ratés ou au contraire le roman de tous les possibles, finalement ?
De tous les possibles... Moi, je vais retourner un peu à l'histoire originale. L'histoire originale est assez intéressante parce que ce qui se passe dans le roman de Pouchkine, c'est qu'elle est mariée quand ils se retrouvent. Et le mariage, à l'époque, c'est pas possible. On ne casse pas le mariage, quoi. Et Eugène Onegin, le roman de base, c'est vraiment le grand roman russe de cette passion qui ne va pas finalement être consommée parce que elle a ses engagements, elle a son mariage, elle a fait toute sa série d'engagements à elle-même, à la société, à son mari, etc. Et elle décide de ne pas suivre Eugène. Et ça, c'était impossible à transposer. Enfin, parce que le mariage, enfin, ça fait bien rigoler tout le monde, quoi. Enfin, certaines personnes. Et donc il fallait trouver une manière de transposer ça, mais je pense que cette manière, je pense que ces contraintes-là, ces engagements, ils existent toujours, mais ils ont pris d'autres formes. Et dans le cas de Tatiana, c'est son désir personnel d'épanouissement à travers ce qu'elle recherche, qu'elle écrit, ses voyages, etc. Et donc, de ce point de vue-là, c'est pas de tous les possibles, non, parce que on se met constamment des contraintes dans les roues, en fait, à nous-mêmes. Et c'est parce qu'on cherche à suivre des projets de vie qui nous intéressent plus qu'un autre, on s'y engage, et du coup, ce qui arrive en travers, comme par exemple une grande passion amoureuse, c'est une chose à négocier dans un projet de vie, quoi. Et donc, tout n'est pas entièrement possible, mais il y a quand même des interstices. Peut-être, on va dire ça comme ça. Je vais m'arrêter, sinon je vais me spoiler. Ce qui serait quand même très bien.
Et vous travaillez bien l'interstice, je trouve. Et ce que j'ai trouvé très, très frappant dans ce roman, c'est l'utilisation de l'inconscient, du lapsus, la mise en lumière de tous ces petits dérapages quotidiens qui font tout le charme du roman, parce qu'on se retrouve en permanence dans nos maladresses. Je pense à la scène du début où... Eugène se rend à l'enterrement de son grand-père, et où Tatiana lui dit « Oh, dis donc, t'es chic !» Et il lui répond « Oui, mais si je vais à l'enterrement de mon grand-père, ah, super !»
Ah, elle dit, ah, génial.
Et voilà, ça déborde comme ça de spontanéité, de naturel. Comment on arrive, enfin, je sais pas, enfin, pour moi, ça, c'est forcément un travail, mais comment on arrive à rendre cette spontanéité dans, c'est même pas les dialogues, mais dans un texte comme ça qui change de registre sans arrêt, où on est dans le spontané, dans la description, dans l'intériorité.
Oh, mais c'est une longue expérience d'humiliation, de lapsus, de choses dites au mauvais moment. Ah ouais, mais ça, c'est totalement le genre de truc que je suis entièrement capable de faire. Oh, t'as l'air élégant aujourd'hui. Ah, je vais à un enterrement. Oh, cool. Non, non, pas cool. Non, juste, le cerveau a eu un peu de retard avant de... Ça, c'est le genre de truc totalement dont je suis capable. Donc ça me vient très naturellement. Finalement, ça c'est pas... Mais c'est vrai que il y a quand même... je me suis beaucoup, beaucoup inspirée là, d'expériences soit de moi-même ou d'autres personnes qui m'ont raconté des trucs drôles sur leur propre rendez-vous, le truc. Ah là là, c'était horrible. Je sais pas, on arrive au resto, je sais pas, est-ce qu'il est végétarien? Je sais pas, du coup, j'ai commandé un truc végétarien parce que si j'avais lui, il est végétarien, après. Et après, tout ce genre de petits trucs qui se passent maintenant dans les couples en train de se former. Donc ça, je me suis bien amusée avec ça. Mais c'est souvent d'ailleurs tiré d'expériences personnelles ou d'amis. Ces choses-là, ouais, qui m'étaient restées en tête et qui ressortent à ce moment-là.
Je crois que le charme vient en partie de là. C'est que d'ailleurs, je vois des sourires dans le public, mais on se reconnaît tous, quoi, vraiment. Et même s'il y a beaucoup de filles cet après-midi, je suis sûre que c'est un roman dont les garçons vont s'emparer aussi, parce que les garçons vont se reconnaître de la même façon dans leurs hésitations. Je pense à cette scène où Tatiana et Eugène se retrouvent après le samedi au musée. Et où ils partent sous le même parapluie, chouette, elle a oublié son parapluie, donc ils sont blottis l'un contre l'autre. Et c'est une scène, vous faites référence d'ailleurs à la comédie musicale, c'est une scène de comédie musicale où effectivement toute la comédie romantique s'exprime, tout ce qu'on peut voir au cinéma. Et pendant plusieurs pages, ils passent leur temps à louvoyer et ils sont obsédés par la même chose, c'est-à-dire finir ensemble dans le même lit sous la couette, quoi. Ils sont obsédés par leur peau, par leurs odeurs, c'est une scène hyper sensuelle et hyper touchante parce que ça renvoie, quel que soit notre âge, quelle que soit notre expérience, à quelque chose qu'on a vécu.
Ouais, et en même temps, ça paraît terrible de le dire comme ça parce que ça veut dire qu'on est tous d'une banalité absolument exemplaire.
C'est universel, c'est pas banal, c'est universel.
Oui, c'est ça, c'est l'universalité, ouais, l'autre nom de la banalité totale. Mais bah ouais, bah je pense qu'il y a, ouais, il y a quand même encore un certain nombre d'universels. Ouais. Et ça, c'est sûr que... Mais ça m'intéressait de rendre le côté maladroit et drôle aussi, et pas que le côté glorieux, magnifique, splendide. Je trouve qu'il y a tellement de trucs qui sont vraiment, c'est ça, à la marge finalement de l'abject dans ce genre de situation où on se dit vraiment des considérations, mais d'une trivialité totale. Et finalement, on n'entend pas tellement parler, parce qu'il y a cette idée du sentiment amoureux tellement noble, tellement magnifique dans les comédies romantiques. Tout se passe de manière extrêmement, disons, lisse et parfaite, alors que en fait, on est systématiquement en train de penser à des trucs complètement idiots. Est-ce que j'ai changé de culotte? Enfin, vraiment, mais des trucs, complètement triviaux.
Eugène nettoie son appartement parce que Tatiana risque d'y venir.
Mais il nettoie son appartement aussi, tu le redéranges.
Oui.
Et ça, c'est un truc que je fais très fréquemment. Enfin, très fréquemment, pas forcément dans ces conditions-là, je voudrais dire, mais le genre de truc où on invite des amis, on nettoie bien son appart, mais ensuite, on dirait un appart dans un catalogue bizarre, on dirait que personne n'y vit. Alors, comment est-ce qu'on va redéranger cet appartement pour qu'il paraisse à peu près naturel? On va mettre deux livres comme ça, on va faire un peu de bordel, mais le bordel n'a jamais l'air totalement naturel non plus. Enfin, c'est une espèce de... Donc, on en apprend beaucoup sur ma personnalité compliquée dans cet entretien.
Donc, ouais, c'est plus autobiographique qu'on ne pourrait croire, en fait. On a dans ce roman, et là aussi, c'est une des grandes qualités de l'écriture, des tas de registres différents. C'est-à-dire, on peut avoir un vocabulaire extrêmement précis, un lexique très, très choisi, très, très pointu. Et à côté de ça, des mots vraiment presque crus. Donc on a toujours cette espèce de mélange, d'alchimie, hein, ces mélanges au sens noble du terme, mais et qui fait la singularité du style aussi. Comment on arrive à passer d'un registre de langue à l'autre en permanence, c'était quelque chose, j'imagine, de très voulu. Ne me dites pas que tout est naturel.
Non, mais... c'est, enfin, honnêtement, je dis beaucoup de gros mots dans la vie de tous les jours, c'est vrai. Et d'ailleurs, on m'en fait souvent la remarque. Là, je me suis vraiment bien tenue depuis le début de cette entrevue. Et c'était pareil, je pense, pour les petites reines, où il y a vraiment beaucoup de... Donc là, si, honnêtement, le côté, ça, ce côté-là, c'était assez, c'est venu de manière assez naturelle. Après, là, le mélange des registres de langue, ouais. Bah, il y a des moments où il faut vraiment qu'il y ait de l'imagerie très complexe ou assez riche. Du coup, on est obligé de puiser dans un vocabulaire plus recherché. Mais par contre, le reste, la manière de s'exprimer, je pense que c'est la manière dont on s'exprimerait naturellement à cet âge-là. Je pense que c'est peut-être ça qui fait le contraste, c'est-à-dire que parfois c'est des dialogues et parfois c'est des descriptions. Mais c'est marrant parce que j'ai pas l'impression d'être aussi. Il faut que je me lave la bouche avec du savon.
Ah, pas du tout. Ah non, je trouve que ça participe au charme, au contraire, où on a des moments, des changements de rythme.
Ouais.
Il y a, comme en musique, comme dans un opéra, par exemple, on a des arias comme ça qui s'envolent, et puis on a des moments plus paisibles ou avec des chœurs. Et je trouve qu'on sent beaucoup ça dans le roman. Une grande musicalité, avec des moments de calme, avec des moments où, comme au fil de l'eau, la barque, floupe, elle prend un courant plus vif.
Là, c'est vrai, ce qui s'est passé avec ce bouquin, c'est que c'était pas seulement Thibaut qui le lisait en même temps, c'était aussi ma mère, qui est ma première lectrice depuis toujours, et la seule pour qui c'est le truc le plus important de la planète, que ça lui plaise à elle. Après, le reste n'a que très peu d'importance. Et elle a été très critique sur ce roman. C'est-à-dire qu'elle me disait tout de suite, là, on perd le rythme. Il y a un truc qui s'il y a une longueur, tu coupes ça, il faut que tu repartes sur un autre truc. Il faut pas qu'on perde le rythme. Une seconde, et j'ai réécrit beaucoup, beaucoup de passages sur ses ordres. Et donc c'est vrai que je sais pas si j'étais vraiment branchée sur une histoire de quel est le rythme, etc. Mais en tout cas, c'est sûr que les premiers lecteurs ont eu beaucoup d'importance, notamment aussi les lecteurs jeunes blogueurs qui on a demandé de lire le livre quand il était fini, et qui ont occasionné des tas et des tas de modifications qui ont vraiment... Là, on a, en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc le livre, on l'a terminé, mais moi, j'étais pas contente de la fin. Et en plus, j'ai été très anxieuse que ça ne plaise pas à des jeunes lecteurs, parce que pour moi, c'était vraiment important. Et j'ai demandé à Thibaut si on pouvait demander à des jeunes blogueurs, notamment. Donc, ça allait à peu près, je crois, de 14 à 22, peut-être 25 ans, de lire ce premier jet, finalement, du manuscrit, pour dire ce qu'ils en pensaient. Mais pas pour une visée de promotion, c'était vraiment pour une visée de... Quelles seraient les modifications à apporter? Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui marche pas? Et donc, c'était vraiment c'est la première fois qu'on a fait ça comme ça. C'était vraiment alors on appelle ça des lecteurs bêta, ce qui paraît extrêmement bizarre en français. Mais c'est bêta comme alpha, bêta, gamma, etc. Voilà. Oui, il faudrait trouver un autre mot, à mon avis. Donc, c'était des lecteurs bêta intelligents qui ont lu le livre et qui ont proposé des tas d'endroits, de passages où ils pensaient qu'en effet que ça perdait le rythme, ou que là il fallait allonger la fin par exemple, qui était beaucoup plus brève avant. Et puis il y a eu notamment une des jeunes lectrices, Alice, qui a dit j'aurais pas été étonnée à un tournant de page de voir apparaître un calligramme. Et là Thibaut et moi on a dit: mais ouais, pourquoi on n'a pas de calligramme? Et donc on a retravaillé pour voir si on pouvait trouver des petits endroits où on pouvait faire des effets typographiques ou calligrammiques un peu pour... Et parce qu'en effet, ça nous paraissait très pertinent comme remarque. Donc il y a vraiment eu un travail avec des pré-lecteurs et des pré-lectrices qui ont vraiment contribué à l'histoire. Donc là encore, c'est pas que Thibaut, c'est un travail assez collectif.
J'avais choisi des passages de lecture. En même temps, je me dis que c'est dommage, parce que justement, il y a un travail sur la typographie, mais complètement de dentelière, avec des reproductions, donc avec la forme vers libre. Et notamment cette fameuse ligne de poil, quoi, qui est une merveille.
Et bah, au départ, justement, elle n'était pas en forme de ligne. C'était juste les mots les uns derrière les autres, comme ça.
Non, mais c'est bourré d'idées. Il y a un travail au niveau de la typographie.
Mais ça, donc vraiment, c'est une des choses qui a été faite après la remarque d'Alice, qu'on a modifiée à ce moment-là.
Donc, si je lis, Eugène retire son pull et son polo se soulève, et elle voit une fine ligne de poils bruns courir comme un trait de fusain de son nombril à sa boucle de ceinture. Moi, je trouve que comme ça, vous voyez, c'est encore plus évocateur. Donc, le livre est, voilà, est plein de ces petites trouvailles. Donc, le style, la forme, et tout forme un ensemble totalement cohérent. Et vous êtes aussi la reine du flashback, du fast-forward et du cliffhanger. Et, donc on a une tension permanente donc sur le rythme, on en parlait tout à l'heure. On a un chapitre en 2016, un chapitre en 2006, un chapitre en 2016. Et on retient l'information. Et vous tournez les pages comme ça parce que vous dites, mais j'en peux plus. On a envie de savoir, on a envie de... On est au plus près des personnages, il y a une empathie avec eux, enfin, on est vraiment au plus proche.
Bah, ouais, tant mieux. En fait, l'idée d'avoir 2006, 2006, 2016, c'était aussi pour permettre ce genre de cliffhanger et aussi pour que la distance soit constamment présente à l'esprit, la distance du temps. Ouais. Parce que si on raconte une histoire linéairement, entre la première et la dernière année, on n'a pas forcément la conscience de ce temps-là qui constamment s'interpose entre les personnages aussi. Donc c'était une manière de garder cette distance-là à l'esprit, parce que c'est ça qui m'intéressait le plus en fait, dans cette histoire.
C'est qu'en 10 ans, figurez-vous, entre 2006 et 2016, se sont passées beaucoup de choses. Et ça, vous le rendez à travers l'évolution des personnages, bien sûr, qui sont devenus adultes et qui ne sont plus des adolescents en devenir, mais aussi à travers le regard sur les technologies de communication avec lesquelles on vit au quotidien. Donc on est passé du MSN au Skype et aux échanges par email et à l'instantanéité souhaitée de la réponse qu'on attend. Là, on a tous vécu maintenant ce petit crayon qui bouge là quand vous envoyez un message sur Facebook et ça bouge ou ça bouge pas et on attend derrière mais qu'est-ce qu'il faut Et ces prétextes à plein d'interprétations, de fantasmes, de douleurs, enfin c'est horrible ce qu'on vit en fait, non?
Oh, bah ça va quand même. Ça pourrait être pire. Mais ouais, c'est drôle parce que MSN faisait déjà ça. Enfin, je me souviens plus. Oh non, je me souviens plus si sur MSN il y a le petit crayon. Mais c'est vrai qu'MSN structurait vachement nos vies. Enfin, ma vie à l'époque en 2006, mais surtout d'ailleurs avant, d'ailleurs, entre 2002 et 2005. 2006, par là. Et donc, c'était une partie importante. Il est dedans pour ça, mais honnêtement, je n'avais pas prévu à quel point tellement de gens se concentreraient sur MSN dans le livre. C'est drôle, c'est un de ces trucs où je me suis aperçue que les gens qui lisaient le livre, qui avaient à peu près mon âge, me parlaient tout le temps d'MSN, alors qu'en fait, quand on regarde, il y a deux pages, je crois, sur MSN, ou trois pages, il n'y a presque rien, mais c'est là que je me suis dit, zut, j'ai raté l'occasion de faire tout un roman juste sur MSN. C'était clairement ce qu'il fallait faire. Et donc, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a une nostalgie, finalement, des gens qui ont entre 25-30 ans, par rapport à MSN, par rapport aussi aux textos qui coûtaient cher. Oh, les textos coûtaient cher, on disait comme si c'était génial, quoi. Oh oui, c'est vrai, ça coûtait super cher, les textos. Alors qu'on explosait notre forfait, mais d'une manière, c'était n'importe quoi. Et les gens, ils sont trop nostalgiques. Et donc, c'est vrai qu'il y a tous ces passages-là de 2006. J'avais pas prévu à quel point ça allait causer une espèce de nostalgie qui semble étrange quand même, parce que c'était pas il y a si longtemps que ça. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment un décalage avec maintenant, où j'aurais pu mettre WhatsApp, Snapchat, j'aurais pu mettre d'autres choses. Mais j'y ai pas pensé, parce que je dois dire que c'était pas un truc sur lequel je me focalisais. Mais j'ai l'impression que j'ai manqué d'esprit stratégique sur ce coup-là.
Non, mais en tout cas, ces petites incises-là, ça marque bien quand même l'évolution très rapide de nos attentes, de nos positions dans l'espace. Quand on est sur un quai de métro, il y a une scène avec Eugène qui attend la mort du dernier chanteur des années 80, enfin la dernière mort du chanteur des années 80, le dernier attentat à la bombe, le dernier... Et on est dans l'attente de quelque chose parce que le temps passe pendant ce temps. Je trouve que là aussi, c'est quelque chose qu'on vit tous et c'est banal et universel parce que c'est partagé. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir le don de percevoir. Pour finir, je voudrais juste poser une question sur la place du narrateur, narratrice, dans le roman. Ça aussi, c'est un procédé étonnant. On a un narrateur...
Une narratrice. Je le dis parce que Thibaut m'a dit, vas-y, on peut en faire un homme, parce qu'on ne va pas avoir encore une nana en narratrice.
Merci.
Et donc j'ai insisté pour que ça, elle reste une narratrice.
On a une narratrice qui est très présente, qui sait se faire discrète, se mettre en retrait, juste décrire, donner la parole, mais qui va jusqu'à dialoguer avec ses personnages, leur dire « non mais ça va pas la tête ou quoi, enfin, qu'est-ce que tu fous ?» Et puis il y a vraiment une connivence, donc c'est la narratrice, elle est plutôt dans la réalité, elle est plutôt… Quelle est sa place en fait?
Je pense que c'est une narratrice, c'est pas un personnage, mais c'est une narratrice qui est, comment on dit, qui ouais, ça fait allusion finalement au travail d'écriture. Soi-même, c'est un peu un jeu avec l'idée même de narration, c'est-à-dire qu'on a ce personnage bizarre, le narrateur, qui en général essaye de pas trop se faire remarquer, et là, elle est présente depuis le début, mais elle s'affirme de plus en plus vers la fin. Mais c'était aussi une manière de mettre de l'espace quand même dans une histoire d'amour, parce qu'elle est, ça peut être, enfin, une histoire d'amour, ça peut être très claustrophobique quand on a deux personnages qui sont constamment l'un sur l'autre et tout. Puis d'avoir cette espèce de troisième présence qui blague, qui les force un peu à aller, ça ajoutait aussi de l'humour et de la distance dans l'histoire d'amour, d'avoir cette narratrice un peu étrange. Mais je ne sais pas si on peut dire que c'est vraiment un personnage du livre, mais en tout cas, c'est une narratrice très, 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 très présente.
Alors, je trouve ça très intéressant, parce que quand l'éducation nationale va s'emparer de cet ouvrage, que vont dire les professeurs? Parce qu'on a, quand j'anime le club ado, un club de lecture donc avec des adolescents, souvent leur présentation commence par « alors là, on a un narrateur omniscient et on sent, ou pas, et on sent qu'il y a un discours formaté quand même, on sent qu'il y a, voilà, il faut se poser la question du narrateur. » Et là, ça va poser question. Je trouve ça très intéressant.
Bah tant mieux, non mais c'est très bien qu'on s'interroge sur la narration.
Mais oui,
C'est vrai que c'est une question intéressante.
Le cinéma, c'est important dans votre vie? Non, parce que parfois, je me dis que justement, les techniques narratives peuvent être proches et donc...
De la comédie musicale, ouais.
Oui.
Ouais. Non, je regarde pas mal de films, mais plus des films anciens, je ne suis pas très au courant de ce qui se passe. J'aime beaucoup les films de la Nouvelle Vague, enfin, comme beaucoup de gens, mais non, on ne peut pas dire que c'est une obsession. Non, mais j'en regarde un certain nombre. C'est sûr que les... comédie musicale de Jacques Demy ont une influence certaine dans ma vie de tous les jours. Donc ça en fait partie. Mais moins quand même, que beaucoup, beaucoup moins que la lecture et beaucoup moins que l'opéra aussi, en général.
Ouais. Je pensais à ça pour... je regarde comme beaucoup de gens maintenant pas mal de séries. Et c'est vrai que dans la série, on est sur des cliffhangers en permanence, un rythme comme ça qui nous fait attendre la langue pendante le prochain épisode. Et je trouve qu'on retrouvait ça beaucoup dans la construction de Songe à la douceur. Mais c'était
je regarde très
une coïncidence.
Non, je regarde très très rarement. Non. Mais bon, c'est possible aussi que ça soit un type de narration qui soit particulièrement populaire en ce moment.
Oui,
aussi,
oui, qui infuse. On n'a pas parlé des références littéraires qui infusent mais de façon spectaculaire le roman. Si les références que vous vouliez mettre absolument, à part Eugène Onegin.
Mais je ne sais pas si ça s'est fait de manière volontaire, parce qu'il y en a beaucoup, parce que c'est comme une histoire d'amour entre deux personnes qui sont aussi de gros lecteurs, donc il y en a qui émergent de manière plus naturelle. Et puis, ouais, il y a des références, mais en tout cas, l'idée n'était pas du tout de faire une sorte de cache-cache avec des références. C'est venu d'une certaine manière... Quand et où il y avait besoin des références, elles étaient là, d'une certaine manière, c'était une manière de... Mais ce n'était pas moi qui les convoquais de manière explicite, c'était plus organique à l'histoire.
Ouais.
Mais c'est vrai qu'en plus, ça faisait référence beaucoup à tout un univers de mon adolescence où j'étais une obsessionnelle du par cœur, donc j'apprenais des tas de poèmes par cœur, j'apprenais des tas de pièces par cœur, maintenant plus du tout, et à l'époque je faisais beaucoup, mais comme ça faisait référence à cet univers-là, j'avais ces références-là en tête. Souvent, c'est pour ça aussi d'ailleurs que je dis que je suis plus proche d'Eugène, c'est comme lui qui connaît tous ces trucs par cœur. Quand j'étais ado, j'avais cette obsession du par cœur, j'avais l'impression que si j'apprenais des choses par cœur, elles allaient être à moi, je pouvais me les approprier totalement, et donc c'est ressorti peut-être de cette manière-là, mais c'était certainement pas pour faire une sorte de grand jeu de retrouver la référence à tel truc, c'était plus naturel que ça. Enfin, du moins, j'espère, parce que c'était certainement pas pour en mettre. Ouais. Il y a bien une fonction spécifique des références.
Ouais. Oui, peut-être parce que c'est tellement, tellement ancré dans votre vie quotidienne que...
Ouais, non. Pas, ou plutôt dans, ouais, ou dans mon imaginaire de l'amour ou de l'adolescence, ou des deux, peut-être. Ouais.
Est-ce qu'on ferait une petite lecture?
Alors, donc c'est au moment où Tatiana voit pour la première fois que Eugène est un gosse beau de premier ordre. Donc voilà, j'espère que c'est dit un peu plus poétique pour ça. Écoutant ces mots, notre Tatiana est partagée intensément entre l'horreur et la fascination, mais se décide très vite pour le second sentiment, qui a l'avantage de correspondre aussi à ce qu'elle ressent lorsque son regard trébuche sur le visage escarpé d'Eugène, califourchon de lunettes, nez accidenté, sourire épinglé à gauche, des yeux très beaux, très bleus, bleu russe, décide Tatiana, le bleu des palais russes dans leur coussin de neige blanche. Elle note la manière dont il croise les jambes, un tibia qui repose sur le genou de l'autre jambe et d'autres choses, les avant-bras triangulaires qui dépassent de ses manches. Les garçons de son âge, ce qui sont bêtes les garçons, ont des avant-bras fins comme des bâtons, des avant-bras comme des tuyaux de plumes de pigeons, ce qui sont moches les garçons, et encore une autre chose, ses mains, une bretelle d'autoroute de ligaments. Pas les mains rondes et infantiles des garçons de sa classe qui font bébé, pas ses mains de baudruche, ses mains de caoutchouc, mais des mains construites, structurées, stratégiques, des mains dont on voit toute la mécanique. Et le long de cela, de ses mains, ses bras, son cou, sa peau est tressée de racines bleutées, opalescentes, noueuses. Je pense qu'à ce moment-là, on peut estimer que notre adolescente est amoureuse.
C'est un livre, justement, quand j'ai choisi les, quand j'avais noté comme ça des extraits possibles, je me disais... Alors, il faudrait citer ça, et puis ça, et puis ça, et puis ça, et on n'a même pas parlé des papillons. Parce que les papillons, ça m'accompagne au quotidien maintenant.
Allez,
quand j'ai un coup de stress, quand je trouve que le dimanche, mon seul jour de repos en ce moment de la semaine, passe trop vite, je me dis, ouais, mais un jour dans la vie d'un papillon, donc là c'est deux, c'est deux fois sa vie, deux jours.
Ben c'est vrai que ça, c'est un truc qui intrigue, enfin, moi, qui m'intriguait beaucoup quand j'étais petite, c'est que si les mouches, elles vivent un jour, ben pour elles, c'est toute une vie, donc finalement,
ouais, c'est ça.
C'est là que j'ai découvert le concept de la relativité. Les papillons, c'était une stratégie narrative assez, assez basique, c'est-à-dire qu'on allait avoir un motif qui allait revenir au début et à la fin, donc une espèce de motif. Mais j'étais très contente qu'ils n'en mettent pas sur la couverture, parce que j'avais pas du tout envie d'avoir spécialement des papillons sur la couverture. Mais ouais, c'était une manière d'avoir un peu de lien, de faire le lien. Entre, puis il y a l'effet, quoi, l'effet papillon.
Très belle image et très beau moment aussi sur l'explication du pourquoi les papillons à l'époque victorienne deviennent noirs alors qu'avant ils étaient blancs. Enfin, ça fait partie aussi des charmes.
Ça, c'est vrai.
Mais oui.
On apprend des choses.
Mais on apprend des choses. C'est un livre
des choses factuelles. C'est presque documentaire finalement.
Exactement. On apprend comment on est seul quand ça va pas aussi. On apprend vraiment énormément de choses. Donc voilà, j'avais peur quand ce livre est sorti, quand j'ai eu à le défendre, de pas pouvoir dire un mot tellement je l'aimais. Maintenant, je me rends compte que je suis intarissable et que je saoule tout le monde. Merci beaucoup, Clémentine.
Merci, c'est très très gentil de m'avoir invitée.